Amén.
Alors cet après-midi, moi je vais vous parler de la joie dans l'Esprit Saint. Et puis alors comme il y a eu un peu un imprévu dans la semaine, dans la
Attendez, je vois
communauté,
qu'on n'entend pas bien.
on n'entend pas. Et dans... Alors je disais que cet après-midi, je vais parler de la joie dans l'Esprit Saint. Et comme cette semaine, nous avons eu un imprévu avec l'état de santé de sœur Ursule qui n'a pas pu faire son enseignement hier. Du coup, je l'ai adapté un petit peu pour intégrer le sien, qui était les saints témoins de la joie chrétienne. C'est un peu deux en un. Alors, c'est vrai que d'abord, pour ceux qui étaient à l'aude ce matin, j'ai trouvé ça très beau parce que je ne sais pas si les hymnes ont été choisis parce que la session était sur la joie, mais je trouve que le refrain de l'hymne de ce matin va bien. Chante et crie de joie, Jérusalem, Jésus est vraiment ressuscité. Chante et crie de joie, Église du Seigneur, car tu as été sauvée par ton Dieu, sur toi il a répandu son esprit. Alors c'est vrai qu'on jusqu'à présent on a parlé de cette joie d'être créé par Dieu, d'être aimé par Dieu, cette joie aussi de se savoir racheté, sauvé du péché. Et maintenant nous allons aborder la place de l'Esprit Saint dans cette joie, parce que lui aussi est à l'origine de notre joie, on en a parlé, il est le fruit de l'Esprit Saint. Mais surtout, on va rappeler ces paroles de Jésus le soir de la scène. C'est votre intérêt que je parte. Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et Jean-Paul II, qui a écrit une très très belle encyclique sur l'Esprit Saint, Dominum et Vivificantem, écrit: L'Esprit Saint vient au prix du départ du Christ. Si ce départ a provoqué la tristesse des apôtres, qui devaient atteindre son point culminant dans la passion et dans la mort du Vendredi Saint, à son tour, cette tristesse se changera en joie. Donc la joie, nous l'avons déjà bien dit, est l'expression d'une vie enracinée dans le don, la vérité, l'amour. Elle est le fruit aussi d'une fidélité cachée, humble, persévérante. Les témoignages nous en ont montré de beaux exemples. Mais cette joie aussi, elle est exigeante. Elle se prépare dans l'effort, elle se forge dans la fidélité et elle rayonne dans le don total de soi. Alors, où puiser cette joie profonde dont nous voulons rayonner, cette joie spirituelle que nous voulons porter autour de nous? Saint Paul nous donne la réponse dans sa lettre qu'il adresse aux Galates. Le fruit de l'esprit est charité, joie, paix. Donc la joie est un fruit de l'Esprit Saint. C'est donc par la puissance de l'Esprit Saint que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous pourrons porter ce fruit. C'est donc en développant une plus grande dévotion à l'Esprit Saint que nous développerons dans nos cœurs cette joie que doivent rayonner les saints. Rappelons-le, un saint triste est un triste saint. Mais ici, notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta nous le rappellent souvent, il n'y a pas d'union à Dieu, de vie spirituelle, sans ces sources de vie et de joie que sont la prière et les sacrements, mais qu'il ne faut pas oublier que la vie de prière ne pourra s'approfondir et s'intensifier sans l'ascèse, sans l'exercice des vertus. Donc c'est ce qu'on va développer maintenant. On va voir un petit peu comment chaque don que le Saint-Esprit nous envoie nous fortifie et nous soutient pour vivre notre vie chrétienne en rayonnant cette joie de Dieu chaque jour. Saint Paul VI n'a pas eu peur d'affirmer qu'il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans joie. Donc soyons toujours joyeux et prions sans cesse. La joie se puise d'abord dans une prière fidèle, incessante. Dès notre lever, il nous faut nous tourner vers Dieu. Et le Saint Curé d'Ars donnait cette très belle image à ses paroissiens. Le matin, il faut faire comme l'enfant qui est dans son berceau. Dès qu'il ouvre les yeux, il regarde vite s'il voit sa mère. Quand il la voit, il se met à sourire. Quand il ne la voit pas, il pleure. dit donc pour nous, chrétiens, eh bien, il en est de même. Dès le matin, il nous faut tourner vers Dieu et on est heureux. On porte déjà de cette joie. Mais cette joie se puise aussi dans l'exercice des vertus. Alors ma sainte patronne, sainte Elena Guerra, qui est davantage connue depuis sa canonisation, le 24 octobre 2024, est-elle aussi une sainte de la joie? Alors Saint Jean 23, la béatifiée, n'a pas eu peur de lui donner le titre d'apôtre du Saint-Esprit. Et la joie est vraiment la vertu qui la caractérisait. Elle était une sainte joyeuse et qui voulait que ses filles spirituelles soient témoins de la joie. Alors c'est sur son approfondissement qu'on va s'aider tout au long de notre enseignement. Voilà ce qu'elle leur dit. La joie est un fruit de l'humilité, de l'abnégation et du véritable détachement de soi, tandis que la tristesse, l'inquiétude et la mauvaise humeur sont propres aux personnes orgueilleuses, misérables et réfractaires au sacrifice. Il ne faut donc pas croire que le maintien constant de la joie soit une chose plutôt facile, car elle suppose bien des victoires. Victoire sur l'impatience, victoire sur l'attachement à sa propre volonté, victoire sur les angoisses et les préoccupations futiles, victoire sur l'orgueil, sur l'amour-propre et sur toutes les passions qui tyrannisent notre pauvre cœur. En un mot, la joie est le fruit de l'oubli de soi pour chercher Dieu, vouloir Dieu, aimer Dieu, vivre en Dieu et de Dieu. La joie vient de Dieu, la tristesse est le trouble du démon. Rappelle-toi que Dieu te veut joyeuse dans le temps et l'éternité. Donc son exhortation est très très belle. Et c'est ce qu'elle enseignera à ses filles et à tous ceux dont elle a eu la charge, puisque elle tenait beaucoup, elle avait été éducatrice, elle fondait beaucoup d'écoles. Qu'aimer Jésus, suivre Jésus, lui être très uni dans la prière implique toujours une grande joie. Et elle encouragera beaucoup ses filles spirituelles à implorer les dons de l'Esprit-Saint pour vivre de cette joie dans l'Esprit-Saint. La prière est notre source d'abord pour avoir vivre de cette joie et de cette sérénité parce qu'elle nous unit à Dieu, mais elle se puise aussi dans cet exercice des vertus. Donc c'est pourquoi il nous faut prier quotidiennement pour ne pas perdre cette douce plénitude, comme aimait l'appeler le cardinal Sarah, qui est la joie, et de demander les dons pour qu'ils nous aident à exercer chaque moment de nos journées les vertus. Donc on va commencer avec ce don de la crainte. Donc la crainte, il y en a une qui est mauvaise et il y en a une qui est bonne. La mauvaise crainte, c'est celle du pécheur, parce que son jugement n'est pas selon le jugement de Dieu. Il a peur des jugements du monde, de ses critiques, de ses appréciations. Ou bien encore, il peut avoir peur de quitter les choses qu'il aime ou d'être privé de ce à quoi il tient. Mais le don du Saint-Esprit qui est le don de la crainte, mais Dieu a avant tout. C'est une disposition habituelle que le Saint-Esprit met dans l'âme pour la tenir dans le respect devant la majesté de Dieu et dans la dépendance et la soumission à ses volontés, l'éloignant de tout ce qui peut lui déplaire. Le don de la crainte fait donc grandir en nous cette confiance en Dieu. Si nous craignons tout de notre faiblesse, nous espérons tout de la grâce de Dieu. La confiance des saints, dit l'imitation de Jésus-Christ, a toujours été pleine de la crainte de Dieu. Quel que fût l'éclat de leur vertu, quelque abondante que fût leur grâce, ils n'en étaient ni moins humbles ni moins vigilants. Donc ce don de la crainte est le fondement de tous les autres. Parce que ce don nous fait fuir le mal. C'est par la crainte qu'on parvient au don de la sagesse. On commence à goûter Dieu quand on commence à le craindre. ce que dit les proverbes, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et lorsque l'Esprit Saint établit sa demeure dans notre cœur, il nous transmet réconfort et paix et nous conduit à nous sentir tels que nous sommes, c'est-à-dire petits, avec cette attitude tant recommandée par Jésus dans l'Évangile, de celui qui place toutes ses préoccupations et ses attentes en Dieu comme un enfant avec son Père. Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils, cet esprit qui crie « Abba, Père ». Dans ce sens, alors, nous comprenons bien que la crainte de Dieu prend en nous la forme de la docilité, de la reconnaissance et de la louange en emplissant notre cœur de joie. Et lorsque nous sommes envahis par la crainte de Dieu, alors nous sommes portés à suivre le Seigneur avec humilité, douceur et obéissance. La crainte de Dieu ne fait pas de nous des chrétiens timides, soumis, mais engendre en nous courage et force parce que détachés de nous-mêmes, appuyés sur Dieu seul, comme nous y invite Sainte Elena Guerra. Donc demandons à l'Esprit de faire de nous, de nous remplir de ce don de la crainte et qu'il nous donne de nous en remettre avec confiance et humilité envers les mains du Père. Et alors pour ce don de la crainte, je vais vous donner comme modèle de saint. Donc ces 32 bienheureux ce martyrs d'Orange dans le Vaucluse, qui d'abord ont remercié leurs parents qui nous ont engendrés sur la terre. Et au moment de leur martyr, c'est à vous que nous devons tout, car vous nous engendrez pour le ciel. Et ensuite, après ces paroles, c'est avec ces paroles adressées à leurs persécuteurs, en chantant et en priant, que ces 32 religieux sont montés à l'échafaud pour y être guillotinés entre le 6 et le 24 juillet 1794 dans la ville d'Orange. Un comportement remarquable qui fera dire à leurs bourreaux, ces bougresses-là meurent toutes en riant. Ce tragique épisode de la Révolution française n'est pas sans rappeler celui du martyr des Carmélites de Compiègne, source d'inspiration pour de nombreux artistes et immortalisé par Georges Bernanos dans sa pièce « Le dialogue des Carmélites ». Accusé d'avoir voulu détruire la République par le fanatisme et la superstition, elles ont toutes refusé de renier leurs convictions religieuses, ce qui leur aurait pourtant évité la peine de mort. Jusqu'au bout, elles ont manifesté une foi inébranlable, une crainte de Dieu, elles chantaient et priaient. L'une d'elles a embrassé une marche en menton à l'échafaud, une autre a distribué des dragées à ses persécuteurs. Leur conduite, le respect dont elles ont fait preuve envers les personnes qui les envoyaient à la mort, témoignent d'une extraordinaire liberté et montrent que rien ne peut éteindre la voix de l'âme. Elles sont un soutien et un encouragement pour tous. Appuyées sur Dieu seul dont leur vie dépendait, elles nous laissent ce témoignage d'une joie profonde, fruit d'un détachement extraordinaire d'elles-mêmes, comme nous l'a indiqué Sainte Elena Guerra. Voilà, c'est assez émouvant de voir ce martyr. Elles sont parties dans la joie, mais aussi avec cette certitude et ce désir du ciel, ça c'est sûr, qui faisait leur joie. Le deuxième don du Saint-Esprit, le don de la piété. Donc vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif dans lequel nous crions « Abba, Père ». Donc dans l'Ancien Testament, on retrouve déjà beaucoup d'aspects de l'esprit de piété. Prière de louange, de demande, sentiment d'admiration et d'adoration devant le Tout-Puissant, des expressions de joie, de difficulté, d'angoisse et de tristesse. On pense à Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorre, le cantique triomphal de Moïse après le passage de la mer Rouge qu'on chante la nuit pascale, la prière de confiance aussi de Suzanne qui est condamnée par les vieillards, la prière de Tobie au soir de ses noces, la prière de Mardochée et d'Esther, bien sûr, le livre des psaumes. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi souvent Jésus se retirer seul pour prier. jusqu'à la fin. Gethsémani, ses dernières paroles à la croix. Sur la croix, pardon. Avec la prière par excellence qu'il nous enseigne, le Notre Père. Mais la piété va plus loin que la seule prière. Elle est plus. Elle relève de la vertu de religion et donc de la vertu plus large de justice. La piété nous fait rendre justice à Dieu en lui donnant la prière, les sacrifices, les jeûnes, le respect, le culte, tous les devoirs par lesquels nous reconnaissons qu'il est le Seigneur. Et pour ce don, c'est l'exemple du vénérable frère Ave Maria qui va nous aider, qui va nous servir d'exemple. Donc, il est né en 1900 et mort en 1964. Donc, cet exemple de ce frère Ave Maria démontre qu'il est possible d'être heureux malgré une vie très éprouvée, à condition de chercher Dieu, de le rencontrer et de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, comme il l'a fait. Donc Ave Maria, ce n'est pas son prénom de baptême, il s'appelait Césarée. Donc il a grandi dans une famille pieuse, sobre. Et pour une fête de la Toussaint, son grand-père est allé au cimetière et lui, avec un de ses amis, voilà, des petits garnements. Donc, il est parti. Donc, il a fait semblant comme si son grand-père ne l'avait pas vu. Et ils vont prier dans une forêt avec ses amis. Et ils vont rentrer dans une écurie dans laquelle ils vont trouver un fusil qu'ils croient déchargé. Donc, comme des garçons de leur âge, ils font les fiers. Donc, ils lèvent les mains en l'air. Ils disent « Tire, 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 je n'ai pas peur ». Et malheureusement, eh bien, les plombs vont atteindre Césarée aux yeux. Et le jeu va devenir tragédie. Donc, il va perdre ses yeux et à l'hôpital, il va même avoir l'ablation de son œil gauche. Et alors, Césarée va passer par un moment de révolte. Et ce moment de révolte, il va le traverser suite à ce que le docteur va dire, pensant qu'il n'avait pas entendu. Donc, il donne son témoignage. À l'hôpital, c'est mon frère qui m'a dit que j'avais perdu mes yeux. Plus tard, le médecin a répondu à mon père, venu d'Amérique, qu'il faudrait un miracle pour que je puisse recouvrer la vue. Il l'a dit en ma présence, je l'ai entendu, j'étais désespérée, révoltée. Donc tous ses espoirs vont s'effondrer. Et petit à petit, il va aussi perdre la paix et la foi. Voilà, je croyais que ce monde était à la merci d'un grand esprit capricieux, cruel et injuste. Donc à l'école, il va apprendre le braille, mais vraiment la rébellion va grandir dans son cœur. Il va avoir des pensées sombres qui vont vraiment détruire sa confiance en Dieu. Il ne prie plus, il renie l'Église et il n'assiste plus à la messe. Et pendant 4 années, il va vivre ce grand vide spirituel et il avouera plus tard avoir été un grand pécheur. J'avais honte de ma cécité physique et intellectuelle, mais je n'avais pas honte d'être aveugle moralement, spirituellement. Et qu'est-ce qui va changer sa vie? Eh bien, c'est une religieuse, fille de la charité, sœur Teresa, qui s'occupe de lui dans l'institut où il est et qui va commencer vraiment à être auprès de lui, très douce, très délicate, avec des paroles de foi simples mais puissantes. Et elle va lui faire prendre conscience petit à petit de sa déchéance spirituelle et morale. Arrivant même un jour à pouvoir lui dire « Tu n'es pas assez aveugle des yeux? Veux-tu aussi grandir aveugle dans l'âme ?» Et Césarée se souvient, a considéré cette religieuse toujours occupée de Dieu et du prochain, je pensais, ou elle est folle, ou c'est une sainte. Et sa grand-mère va mourir peu de temps après, et c'est cet événement qui va lui faire réfléchir sur le sens de la vie. Et cette sœur Teresa qui le suivait de près, à qui il va partager aussi sa grande souffrance, va lui dire « Mais pourquoi ne pries-tu pas pour ta grand-mère que tu aimes tant ?» Et à partir de ce moment-là, Césarée va se remettre à prier, il va se confesser et communier. Ce sera vraiment un temps de grâce pour lui. Et il va faire une telle conversion qu'il va dire à sœur Teresa « Désormais pour moi, Dieu est tout. et c'est avec enthousiasme qu'il va se remettre à ses études et apprendre divers petits métiers qui lui seront utiles. Il va tellement prendre Dieu pour tout dans son cœur qu'il va demander à Don Orion, qui est fondateur d'une communauté, à rentrer comme religieux. Et Don Orion, voyant aussi la mission qui va lui être confiée au sein de la communauté, lui dit « Tu t'appelleras Frate Ave Maria » en lui disant « Je te confie une tâche, celle de prier, prie toujours, prie pour tout le monde. » Et chaque jour, on va le voir dès 4 heures du matin à prier à la chapelle « D'incessant, je vous salue Marie. » Et on lui demande « N'êtes-vous pas fatigué à force de vous tenir ainsi absorbé et à genoux ?» Il répondra « On ne se fatigue seulement à faire que ce qui ne nous plaît pas. » Et il observe « En parlant au Seigneur, on commence par lui demander ce qui nous plaît et on finit toujours par préférer sa volonté à la nôtre. » Et frère Abbé Maria aura beaucoup d'impact dans sa communauté pour ceux qu'il recevra. Et c'est lui qui entraînera beaucoup de personnes à rendre à Dieu ce qui lui est dû. Tous parlent de liberté et de paix, dit-il, mais seul Dieu est libre et seul celui qui fait la volonté jouit de la liberté des enfants de Dieu, qui est une surabondance de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Où l'homme prie Dieu, où il grogne. Voilà, donc vraiment un homme heureux et ce don de piété qui a permis à frère Ave Maria de rayonner de cette joie qui est le fruit de l'oubli de soi pour chercher Dieu. Voilà, ce don de piété nous donne cette grâce de le chercher. Donc ce troisième don de l'Esprit Saint, le don de la science, le don de science, qui nous rend capable aussi de nous remplir de cette joie spirituelle pour la rayonner. Alors, lorsqu'on parle de science, la pensée se tourne immédiatement vers cette capacité de l'homme de connaître toujours mieux la réalité qui l'entoure et de découvrir les lois qui régissent la nature et l'univers. La science, qui vient de l'Esprit Saint toutefois, ne se limite pas à la connaissance humaine. C'est un don spécial qui nous conduit à saisir à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. Si nous sommes guidés par l'Esprit Saint, nous nous ouvrons à la contemplation de Dieu dans la beauté de la nature et dans la grandeur de l'univers et nous conduisent à découvrir que toute chose nous parle de lui et de son amour. Tout cela suscite en nous un grand émerveillement et un profond sentiment d'action de grâce. C'est un don qu'on peut beaucoup demander aussi pendant ces vacances, puisque au cours d'une audience au mois de juin, le pape Benoît XVI avait beaucoup encouragé à profiter des vacances pour retrouver ce sens, cet émerveillement devant la beauté de la nature. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit « Dieu vit que cela était bon ». Si Dieu voit que la création est une bonne chose, nous devons nous aussi nous émerveiller devant elle. Le don de la science nous place en profonde harmonie avec le Créateur et nous fait participer à la limpidité de son regard et de son jugement. On l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage, savoir s'émerveiller avec un enfant devant un petit champignon, et c'est ces joies aussi toutes simples qui alimentent nos journées. Donc le don de science nous place en profonde harmonie avec le Créateur et nous fait participer à la limpidité de son regard et de son jugement. Et tout cela est un motif de sérénité et de paix qui fait du chrétien un témoin joyeux de Dieu en suivant l'exemple d'un saint François d'Assise et de nombreux saints qui ont su louer et chanter son amour à travers la contemplation de la création. Et c'est vrai que là aussi, le curé d'Ars, au cours d'une de ses homilies, avait donné, il appelait ses paroissiens à s'émerveiller de la création. Et alors, il leur partagea ainsi ce fait de la vie de saint François. Un jour, saint François d'Assise prêchait dans une province où il y avait beaucoup d'hérétiques. Ses mécréants se bouchaient les oreilles pour ne pas l'entendre. Alors le saint amena le peuple sur le rivage de la mer pour venir écouter la parole de Dieu, puisque les hommes la repoussaient. Les poissons vinrent sur le bord de l'eau, les gros derrière les petits. Saint François leur fit cette question. Êtes-vous reconnaissant de ce que le bon Dieu vous a sauvé du déluge ? Les poissons inclinèrent la tête. Alors Saint François dit au peuple, « Voyez, ces poissons sont reconnaissants des bienfaits de Dieu, et vous, ingrats, vous les méprisez. » Voilà, donc nous, il faut qu'on fasse mieux que ces poissons. Mais c'est vrai que dans les miracles eucharistiques qui ont été rapportés par Carlo Acutis, il y en a pas mal avec les animaux aussi. C'est vrai que, bien sûr, ce ne sont que des créatures, mais ils nous donnent beaucoup de leçons. Il y en a une, entre autres, ce sont des petits poissons qui ont récupéré une hostie dans l'eau. C'est un miracle qui a eu lieu en Espagne. Hein. C'est très beau, ça mériterait de faire l'histoire d'une petite veillée. Voilà pour le don de science. Ensuite, le don de force. Sainte Elena Guéra, elle dit, il ne faut pas croire que le maintien constant de la joie soit une chose plus facile, car elle suppose bien des victoires, victoires sur les angoisses. C'est vrai qu'on a besoin de ce don de force pour vaincre les angoisses. La force nous permet de surmonter les obstacles et de vaincre nos peurs, nos doutes, pour témoigner de Dieu et lui rester fidèle à tout instant, et qui nous permet la victoire sur les angoisses et les préoccupations futiles parfois. Ce matin, nous avons entendu cette parabole racontée par Jésus qui nous aide à saisir l'importance de ce don. Le semeur sort pour semer, mais toute la semence qu'il répand ne porte pas de fruit. Ce qui finit sur la route est mangé par les oiseaux. Ce qui tombe sur le terrain rocailleux et au milieu des buissons germe, mais se trouve rapidement séché par le soleil ou étouffé par les ronces. Seul ce qui finit sur le bon terrain peut croître et donner du fruit. Ce semeur, c'est Dieu le Père. La semence se heurte souvent à la sécheresse de notre cœur et même lorsqu'elle est accueillie, elle peut rester stérile. Eh bien, l'Esprit Saint, par le don de sa force, par le don de force, libère notre cœur de toutes ses peurs, ses incertitudes, de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. Et c'est vrai qu'en autant, on a vraiment besoin de ce don de force. Il y a des moments difficiles et des situations extrêmes où le don de force se manifeste de manière extraordinaire et exemplaire. Aujourd'hui, dans de très nombreux endroits du monde, des chrétiens continuent à célébrer et à témoigner de leur foi avec une profonde conviction et sérénité, et qui résistent même lorsqu'ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé. Vous voyez, on a eu un témoignage dernièrement. Voilà, d'un directeur d'une école de la fraternité Saint-Pédis qui a préféré démissionner parce qu'il n'a pas approuvé les ordinations et avoir un travail plus ingrat, mais il a fait ce choix grâce aussi à ce don de force de l'Esprit-Saint. Il ne faut pas penser que le don de force soit nécessaire uniquement dans certaines occasions ou dans des situations particulières. C'est à chaque moment de nos journées que nous devons être forts, que nous avons besoin de cette force pour mener de l'avant notre vie, notre famille, nos engagements, notre foi. L'apôtre Paul a dit une phrase qui nous fait du bien d'entendre, « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Nous pouvons être tentés de nous laisser gagner par le découragement, surtout face aux difficultés et aux angoisses de notre temps. Invoquons l'Esprit-Saint. Son don de force nous aidera à ne pas perdre courage dans les difficultés et vous donnera joie et enthousiasme. Et là, pour éclairer ce don, c'est l'exemple de Mgr von Galen, qui est plus que d'actualité aujourd'hui, qui illustre vraiment la puissance de ce don dans sa vie et nous soutient aussi en cette période où nous devons prier et nous affirmer sans peur contre cette loi sur l'euthanasie. En effet, Mgr von Galen, en août 1941, alors que le Troisième Reich allemand était à l'apogée de sa puissance, n'a pas eu peur de dénoncer publiquement le monstrueux projet de la dictature nazie pour l'élimination de vies sans valeur, entre autres des enfants handicapés ou des personnes âgées souffrant aussi d'un handicap, ainsi que des malades mentaux. « À présent, dit-il, des innocents sans défense sont tués de façon barbare, sans égale. Je ne peux plus appartenir au même peuple que ces assassins qui piétinent avec orgueil nos vies. Voilà, il n'a pas eu peur, hein. Donc, Monseigneur von Galen, pour vous le faire connaître un petit peu, donc il est né en 1878, donc à Dinklage, donc il est allemand, et il était 11e de 13. Sa vie de famille, il vit pauvrement, hein, il n'y a pas de chauffage ni d'eau courante à la maison. Il a une éducation austère, éclairée par une foi catholique ardente. L'assistance à la messe est quotidienne à la maison. C'est la maman qui enseigne le catéchisme à ses enfants, qui leur apprend à imiter Jésus et à regarder vraiment leur vie terrestre comme une préparation à la vie éternelle. Et c'est dans cette famille qu'il va puiser le courage après, dont il va manifester au moment où il sera d'abord prêtre, hein, puisque en tant que prêtre, il n'aura pas peur déjà de publier une brochure en 1932, « La peste du laïcisme et ses manifestations ». Il y exhorte les fidèles à lutter contre la sécularisation et la déchristianisation de la société. Et en 1933, donc Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich. Ben, dès le début, hein, Clemens von Galen n'a eu aucune confiance dans ce chef, hein, dont les évêques allemands ont condamné l'idéologie. Cependant, Hitler a besoin de catholiques et il va leur faire des avances. Mais Monseigneur von Galen va être très, très ferme et très fort. Il va être ensuite évêque. Et dans son premier message pastoral, le nouvel évêque commente sa devise « Nec laudebus, nec timore » à ses diocésains au nombre d'1,8 million. « Ni la louange, ni la crainte des hommes, leur écrira-t-il, ne m'empêcheront de transmettre la vérité révélée, de distinguer entre la justice et l'injustice, les bonnes actions et les mauvaises, ni de donner avis et avertissement chaque fois que cela sera nécessaire. » Donc en 1934, il n'aura pas peur de condamner l'ouvrage d'Alfred Rosenberg, le mythe du XXe siècle, hein. Cet idéologue qui exaltait le sang allemand, source d'une humanité supérieure. Et d'ailleurs, dans sa lettre pastorale, il n'aura pas peur d'écrire que c'est une tromperie du diable. Et il invitera ses diocésains, « Rassemblez-vous autour de vos autels, sur lesquels on offre en sacrifice le sang du Christ qui est notre Rédempteur. Prenez part à la vie de l'Église, pratiquez l'amour. » Car c'est à l'amour qu'on reconnaît les amis du Christ. Alors vous aurez confiance. Le Christ nous a avertis que le monde nous trahirait. Nous formons sur cette terre l'Église militante. Acceptons avec joie, si Dieu le permet, à l'instar des martyrs, de subir les persécutions. Donc non seulement il était lui fort, mais il a entraîné derrière lui beaucoup de diocésains à être eux aussi forts. Et après la nuit de cristal du 9-10 novembre 1938, un pogrom au cours duquel la synagogue de Münster est incendiée par la police, Monseigneur von Galen n'a pas peur de proposer son aide à l'épouse du rabbin de la ville qui a été emprisonné. Donc le régime hitlérien veut s'assurer le monopole de l'éducation de la jeunesse en supprimant les cours de religion obligatoires dans toutes les écoles. L'évêque de Münster s'oppose victorieusement à cette suppression en s'appuyant sur l'article 21 du Concordat de 1933. Et en 1936, le délégué à l'éducation dans l'Oldenburg prescrit de supprimer toutes les croix et les insignes religieux dans les écoles et les édifices publics. Cette mesure suscite à l'initiative de Monseigneur von Galen une véritable croisade de prières et de pétitions en faveur du maintien des croix. Et le préfet est finalement obligé de retirer la mesure projetée. Donc ça nous donne aussi à nous bien de l'ardeur et de demander à l'Esprit-Saint ce don de force, nous aussi, pour ne pas baisser les bras, pour que cette loi en France ne passe pas. Et il continuera, hein, en 1939, le pouvoir nazi juge le mouvement venu de supprimer tout enseignement confessionnel et tout cours de religion à l'école. Eh bien, le 26 février, dans sa cathédrale comble, l'évêque de Münster demande à tous ses diocésains de protester par une pétition contre l'école païenne. Donc, son appel est suivi par des dizaines de milliers de personnes qui, en signant, risquent leur sécurité et leurs biens. Donc, que ce courage de Von Galen vraiment nous entraîne. Et si l'euthanasie n'a hélas pas disparu avec le nazisme, et on se souvient de cette, on se souvient ou on fait connaître très souvent cette homélie de Von Galen qui a été très forte pour dénoncer cette euthanasie, et c'est ce qu'on lui fera porter le nom de le lion de Münster. Et en 1944, dans une lettre pastorale de Carême, l'évêque de Münster n'a pas peur de souligner que la cause profonde des catastrophes présentes réside dans le rejet par l'homme moderne de l'autorité de Dieu. Le remède consiste à se soumettre à Jésus-Christ. Peuple allemand, tends l'oreille, écoute la voix de Dieu, suppliera-t-il. Donc il meurt le 22 mars 1946 en exprimant son regret de ne pas avoir été jugé digne du martyr. Donc, comme ce don de force et divin. Cinquième don, le don du conseil. Donc la joie est le fruit de l'oubli de soi pour chercher Dieu, vouloir Dieu, aimer Dieu, vivre de Dieu. Le don de conseil nous est envoyé pour nous laisser guider. Donc le conseil est ce don qui nous guide dans toutes les situations de la vie et nous permet de discerner le bien du mal pour rester unis au Christ et mieux vivre dans sa sagesse. Alors c'est vrai que pour avoir ce don, c'est la prière comme tous les autres, mais plus encore. Et modèle de sainteté que nous vous donnerons pour ce don du conseil, c'est la Vierge Marie, la plus grande des saintes. Et on vous la donne justement parce que notre pape Léon XIV a vraiment cette dévotion à Notre-Dame Mère du Bon Conseil. Pas Notre-Dame du Conseil, hein, Notre-Dame Mère du Bon Conseil. Si elle est appelée la mère du bon conseil, c'est avec raison. C'est parce que d'abord, elle est la mère de celui qui a été appelé le merveilleux conseiller. C'est aussi parce qu'elle a vécu toute sa vie sous la conduite de l'esprit de conseil. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et cela jusqu'au calvaire, au cénacle, à l'Ascension et jusqu'à la Pentecôte, elle sera avec les apôtres pour les réconforter et les conseiller par son amour maternel et sa sagesse de Mère de Dieu. Et Marie a reçu ce don de conseil et elle veut le communiquer à ses fils, à ses enfants. Mère du bon conseil, parce qu'elle nous invite, comme les serviteurs des noces de Cana, de faire tout ce que Jésus nous dira. Et à Cana, elle est convaincue que son fils agréera sa demande parce qu'il aime trop sa mère pour ne pas lui obéir et répondre à sa foi. Et même si son heure n'est pas encore venue de se manifester comme fils de Dieu, il agira pour répondre à sa foi et apporter déjà à Cana ce vin de la nouvelle alliance. En effet, à Cana, Marie suggère à Jésus de faire un miracle car ils n'ont plus de vin. Et elle sait pour quelle raison elle demande cette grâce à son fils. Ce vin a une signification profonde dans le miracle de Jésus. C'est se donner cet amour à cette famille à travers le vin. Et elle est la mère du bon conseil pour chacun d'entre nous. Qui mieux qu'elle peut nous aider, bien nous conseiller et nous éduquer dans la foi chrétienne pour demeurer sur ce chemin du salut? Le sixième don, le don de l'intelligence, qui nous permet de comprendre les mystères du salut et de les accepter avec humilité et confiance. Comme pour la science, il ne s'agit pas seulement de l'intelligence humaine ou de la capacité intellectuelle, Mais saint Paul nous le dit. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Et quand l'Esprit Saint habite notre cœur et illumine notre esprit, il nous fait croître jour après jour dans la compréhension de ce que le Seigneur a dit et fait. Rappelons-nous les disciples de l'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Et quand ils comprennent enfin, leurs yeux s'ouvrent et dans leur cœur se rallume l'espérance et la joie. Alors je vais écourter un peu pour que vous ayez un temps un peu avant le... Là, j'avais donné l'exemple de ce Ivan Mertz qui a été béatifié il y a pas par Jean-Paul II en 2003, qui est un garçon qui était très très intelligent, mais qui a compris justement que toute son intelligence ne pouvait correspondre à ce que Dieu voulait et à ce don de l'esprit si elle était soumise à Dieu. Ma vie est un grand point d'interrogation. De jour en jour, ma foi enfantine se perd. Non. Dieu existe, je crois fermement, même dans les plus durs instants de tentation et de doute, qu'il est l'unique, l'éternel, le grand. Puisqu'il existe, et déjà il s'ensuit que notre vie a forcément un but. Cependant, il ne suffit pas seulement d'approfondir notre intelligence. Notre foi doit nous aider à la rendre à Dieu à qui on la doit. Et c'est ce qui le fera dire « aut catholicus, aut nihil », soit catholique, soit rien. Et il entraînera derrière lui beaucoup, beaucoup de ses amis aussi, au cours de ses études, d'abord à Vienne, hein, puis en France, parce qu'il aura la grâce de venir en France, et ensuite à Zagreb. La vie spirituelle est une méditation de choses divines, une participation à la vie intérieure de Dieu. Sans la vie spirituelle, je cesserai d'exister. Ivan Mertz, c'est un... Comment ?
Quelle nationalité ?
Il est bosniaque, exactement. Enfin, le septième don, le don de la sagesse. Alors, on peut aussi le présenter comme le premier don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous rend sages, mais pas au sens où nous aurions une réponse pour chaque chose, où nous serions tout, mais au sens où nous savons à propos de Dieu. Nous savons comment Dieu agit. Nous reconnaissons comment une chose est de Dieu et quand elle n'est pas de Dieu. C'est dans ce sens que le cœur de l'homme sage possède le goût et la saveur de Dieu, la joie. Si nous écoutons le Saint-Esprit, il nous enseigne cette voie de la sagesse. Il nous offre la sagesse qui est de voir avec les yeux de Dieu, d'entendre avec les oreilles de Dieu, d'aimer avec le cœur de Dieu et de juger les choses avec le jugement de Dieu. Et là, vous avez le grand apôtre de la sagesse, Henri Suzeau, le bienheureux Henri Suzeau, qui était un dominicain. Et qui va avoir des révélations, et même il aura un jour, quand il a 18 ans, alors il est rentré chez les Dominicains à 14 ans. Donc vous voyez, quand on entre à 18 ans, on est âgé maintenant. Mais à 14 ans, et c'est assez incroyable parce qu'il est rentré chez les Dominicains, mais jusqu'à 18 ans, il s'est aperçu qu'il avait vraiment manqué de ferveur dans sa vie religieuse. Et c'est à ses 18 ans qu'il aura une apparition. Qui lui montrera une pure et charmante vierge d'une exquise beauté et qui va lui demander son cœur. Et en fait, c'est la sagesse. Voilà, donc il va être un grand apôtre de la sagesse. Et c'est moi, la tendre, la miséricordieuse sagesse, qui ai ouvert tout grand l'abîme de ma miséricorde infinie afin de t'accueillir avec douceur, toi et les cœurs repentants. C'est moi, ton frère, regarde. C'est moi, ton époux. Je suis aussi complètement oublié tout ce que tu as jamais fait contre moi que si cela n'avait jamais été. Pourvu que tu reviennes complètement à moi désormais et que tu ne te sépares plus de moi. Donc, ce sera son témoignage dans ce livre de la sagesse éternelle qu'il écrira. Donc, lui aussi, il vivra vraiment, donnera un très, très beau témoignage de joie parce qu'il s'est laissé toucher par la sagesse. Donc on voit combien tous ces dons de l'Esprit Saint nous aident à vivre, à faire grandir en nous cette joie qui est un fruit de l'Esprit Saint, et combien on a besoin de ces dons de l'Esprit Saint pour grandir dans cette joie. Et je termine avec une citation de Paul VI dans une de ses audiences qui a suivi la publication de sa lettre encyclique. Je crois que c'est une lettre encyclique sur la joie, ou c'est une encyclique ?
Non, c'est une lettre apostolique.
C'est une lettre apostolique. Donc il y a une audience le mercredi qui a suivi, dans laquelle il dit « L'Esprit qui procède du Père et du Fils, dont il est le vivant amour mutuel, et donc communiqué désormais au peuple de l'Alliance Nouvelle et à chaque âme disponible à son action intime. Il fait de nous sa demeure, dulcis hospes animé. Avec lui, le cœur de l'homme est habité par le Père et le Fils. L'Esprit Saint y suscite une prière filiale qui jaillit du tréfonds de l'âme et s'exprime dans la louange, l'action de grâce, la réparation et la supplication. Alors, nous pouvons goûter la joie proprement spirituelle qui est un fruit de l'Esprit Saint. Elle consiste en ce que l'esprit humain trouve le repos et une intime satisfaction dans la possession de Dieu trinitaire, connu par la foi et aimé avec la charité qui vient de lui. Une telle joie caractérise dès lors toutes les vertus chrétiennes. » Et c'est la fin. Je termine parce que Sainte Helena Guerra, qui avait une grande dévotion au Saint-Esprit, elle aimait l'appeler l'éternel amour. Et puisque je parle aussi de ces saints témoins de la joie chrétienne, je finis avec cette prière du petit Van, qui est aussi un beau témoin de la joie et qui fait le lien entre la joie et l'amour. « Je suis toujours joyeux par amour, même si mon cœur connaît la sécheresse. » J'ai toujours le sourire aux lèvres quand souffle le vent d'automne. Je suis toujours joyeux par amour, même s'il est atteint par la souffrance ou sous le coup d'une profonde tristesse, mon cœur ne cesse de vivre en paix. Ce n'est pas la joie, mais bien l'amour qui est ma source de joie. Mon Dieu, mon Jésus, comme tu es beau et combien profonde ta tendresse. Ce n'est pas la joie qui est cause de ma joie. Même si je n'ai rien à craindre, même si mon cœur bondit de joie, c'est toujours là un effet de l'amour. Amen.